et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu par Nantes vendredi soir à la Méno. On avait rarement vu ça, un Racing d'une grande faiblesse sur le terrain. On avait rarement vu ça aussi dans les tribunes avec des sifflets et des spectateurs par milliers qui quittent leur place avant la fin du match. On va parler de cette situation après 8 journées de championnat avec Yannick Hollande. Salut Yannick.
Salut.
Tu suis le Racing pour RTL notamment. Et puis en face de toi, Fred Vogel, un autre habitué de la maison. Tout va bien?
Ça va.
Presque.
Calmé.
Planète Racing sur RBS, évidemment, les mardis soirs au sommaire donc de ce soir. On commencera par cette fronde inédite des tribunes de la Méno. On parlera du flou sur le terrain qui a certainement provoqué cette situation, de l'incompréhension toujours autour du projet global du club. Et puis on parlera évidemment de la suite, comment rebondir et comment profiter de ces 15 jours de trêve sans match. Il y aura un match amical mais avant 2 déplacements très compliqués du côté de Paris et de Rennes. Voilà pour le sommaire, installez-vous, c'est parti. Des sifflets vendredi soir à la Méno, en cours de match, en première mi-temps déjà, pour accompagner le Racing au vestiaire sur certains changements, et à la fin du match, et puis des tribunes surtout qui se vident. On n'avait pas vu ça, Yannick, depuis quoi, une quinzaine d'années au moins. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revienne, qu'on voyage dans le temps de cette manière?
C'est, en tout cas, moi je trouve que c'est le plus inquiétant, effectivement. Sur ce match qu'on a vécu vendredi soir, c'est plus que le résultat, plus que le fond, c'est de voir ça, de voir ce public qui siffle, de voir ce public qui s'en va. Je me suis dit, effectivement, c'est peut-être ça le plus inquiétant, parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de ces 15 années.
On nous a vendu le début de quelque chose de nouveau.
Oui, c'est plutôt la fin, à mon avis, de cette fameuse génération Racing dont on parle tout le temps, dont Marc Keller parle tout le temps. Et j'ai l'impression qu'on est en train de casser quelque chose, et je pense que c'est ça le plus inquiétant, parce que ça va être beaucoup plus compliqué à réparer que finalement reconstruire une équipe ou réajuster une équipe. Mais ce lien très particulier qu'il y a avec les supporters, moi j'ai peur qu'on soit en train de le casser.
Fred, tu m'as bluffé en s'installant en plateau. Tu m'as dit, moi je fais partie des gens qui sont partis avant la fin du match. Comment on est passé du soutien indéfectible de la Méno, même dans des situations très compliquées, certaines saisons ces dernières années, à cette situation de vendredi soir?
Mais parce que le cœur est blessé, hein. Clairement, ça fait mal de voir notre équipe comme ça, de pas avoir d'équipe tout simplement. On a tellement vécu de choses ces dernières années que c'est difficile de les voir souffrir comme ça. En plus, c'est des jeunes qui ont rien demandé, qui sont pas encadrés, qui sont pas dirigés. Il y a pas de stratégie. C'est un no man's land de match, hein. À la mi-temps, si celle c'est pas là, on en prend 3-4, hein. On va dire les choses clairement. Nantes nous a mangé pendant 90 minutes. Allez, il y avait juste les arrêts de jeu à la fin et j'ai même pas vu le but parce que j'étais parti avant, mais d'une déprimée en fait de voir notre Racing dans cet état-là. C'était vraiment c'est douloureux à voir en fait, hein, là-dessus. Et c'est surtout que on nous a vendu un projet dont on ne sait toujours pas le contenu et l'idée, et que pour 50 millions se retrouver dans cette position-là avec 10 points miraculeux depuis le début de saison après 8 journées, c'est difficile. On a fait 19 tirs, je crois, depuis le début de la saison, 8 journées. Lens en a fait 30 sur un match face à Metz. C'est peut-être temps de se poser les bonnes questions.
On est devant Lens au classement, ceci dit. Regardez,
c'est trompeur.
Regardez le classement de cette Ligue 1 après 8 journées. Donc, le Racing qui sort du coup de la première moitié du tableau, pour la première fois d'ailleurs de la saison, qui est 11e pour l'instant avant d'entériner le résultat du match Montpellier, clairement qui n'est pas allé à son terme. Le Racing, il faudra qu'on pense à supprimer les deux petites cases. Hein. Effectivement, il n'y a plus que 18 clubs cette saison en Ligue 1. Le Racing a 3 points néanmoins de la 5e place et à 3 points de Lorient qui est le barragiste. Yannick, tu fais un peu le même constat. C'est autant le contenu du match contre Nantes que l'ensemble du projet qui interroge ou qui fâche une partie de la Méno.
Oui, en tout cas le match contre Nantes qui vient après celui contre Lens. Là, contre Nantes, c'était vraiment flagrant, parce que avec ces joueurs complètement perdus qui viennent voir Patrick Vieira à chaque arrêt de jeu pour vérifier ce qu'ils doivent faire, moi je ne comprends pas ça, que les joueurs viennent à tour de rôle. Ce qui m'a marqué, c'est Thomas Delaine, je crois, à la 47e minute, on sort de la mi-temps. Il y a un joueur qui est blessé au bout de 2 minutes. Il revient voir le banc de touche pour être vraiment bien sûr de ce qu'il doit faire. Et on se dit, ils ont eu un quart d'heure quand même pour recadrer les joueurs. Ben non, mais 47e minute, il ne sait déjà plus où il doit se placer, ce qu'il faut faire. Voilà, et puis cette première mi-temps, elle a été catastrophique, effectivement. Il y a 8 corners, je crois, pour Nantes, qu'on arrive à 0-0. Effectivement, à la mi-temps, c'était une chance. Et on se disait, voilà, il va tout changer à la mi-temps. Et voilà, aucun changement, on continue comme ça, des joueurs perdus, complètement perdus sur le terrain, et ça c'est vrai que c'est difficile à accepter pour le public, et puis des joueurs qui, voilà, qui du coup ne se battent pas, qui courent dans le vide. En deuxième mi-temps, j'avais l'impression que c'était un taureau du FC Nantes, nos joueurs ne sont pas capables de presser, de récupérer le ballon, et on s'est dit c'est tellement facile pour le FC Nantes face à nous, c'est vraiment vraiment inquiétant. Ouais.
Eux-mêmes étaient un petit peu surpris, hein, pour parler justement de ce match de Nantes, c'est le deuxième titre entre guillemets de cette première partie. L'entraîneur nantais était un peu surpris d'avoir eu autant de possession, autant de maîtrise en première mi-temps. On en arrive à surprendre nos adversaires, dans le mauvais sens du terme, Fred.
Ça fait 8 journées qu'on est surpris et de pire en pire. C'est ça qui est inquiétant. Si encore il y avait un fil conducteur, une stratégie qui se mettait en place, c'est ce qu'on a demandé. Il demandait du temps. Mais là, plus ça avance et plus c'est le néant. Il n'y a pas eu une bonne demi-mi-temps de correct du Racing depuis 8 journées quand même. Il faut quand même voir les choses. Patrick Vieira, je le respecte en tant qu'homme. Je salue la carrière. Mais à un moment donné, en tant qu'entraîneur, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Et il est vraiment urgent d'agir. Et on voit que cette équipe-là, même dans l'effectif, quand tu te prives même de Persic et d'Aoulou, qui peuvent être un peu les piliers au milieu de terrain, tu t'en prives et il n'y en a même pas.
Effectivement, ouais.
Moi, j'ai des grosses craintes, sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, on va aller à Paris, on va aller à Rennes. Aujourd'hui, le Racing dans l'équipe, je crois, est 16e sur 18 dans les résultats moyens des notes. Patrick Vieira est dernier entraîneur de Ligue 1. C'est quoi le projet ?
Pour reprendre la banderole des supporters pendant le match, effectivement. Yannick, un confrère, Sébastien Ruffet, pour ne pas le nommer, s'est amusé à nommer, à recenser les compos d'équipe que les journalistes, le lendemain du match, avaient sorti. Alors certains avaient vu dans ce match un 3-4-3, d'autres une espèce de 5-2-3, enfin... Alors soit les journalistes ont du mal à suivre, soit c'était pas lisible, pas flagrant en tout cas.
Voilà, moi je l'ai toujours pas compris, j'avoue, quand j'ai dû annoncer la composition à l'antenne, je disais que je ne comprenais pas, que j'avais trois arrières latéraux sur le terrain, voilà, donc tout le monde rigolait.
C'était ça en plus,
et tout le monde rigolait en disant, alors je vous expliquerai plus tard comment il se place, j'ai pas pu leur expliquer pendant tout le match sur qui était où, quel était le système. Et voilà, et moi, clairement, ce que j'ai senti, c'est qu'à la rigueur, que nous, journalistes, on ne le comprenne pas parce qu'il est trop subtil pour nous, très bien, mais clairement, les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas leur propre système. Et voilà, où le système de Patrick Vieira, il est soit trop compliqué, et peut-être qu'avec ces jeunes joueurs qui... Ils ont peut-être besoin de repères plus simples, un système plus classique. Voilà, je pense qu'ils sont capables de jouer dans des systèmes simples qu'ils ont travaillé pendant toute leur jeunesse. Mais là, visiblement, le système est particulièrement compliqué. On ne sait pas si c'est un 5-3-2, un 4-3-3 par moment, un 3-4-3. Voilà, il y a Matzel, c'est où il joue, mais c'est à peu près le seul, quoi.
Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui ne jouent pas à leur poste aussi, c'est un vrai souci, au milieu de terrain notamment, enfin, ça explique certainement aussi le manque de cohérence de l'ensemble.
Et quel milieu de terrain ? Quel milieu de terrain ? Enfin, au début de match, on a vu un peu Angelo, à un moment donné, je me suis dit, il va jouer en 10, on avait l'impression derrière les attaquants, puis il glissait tout doucement vers la droite de nouveau, donc il y avait embouteillage avec Senaya et voire Gilbert. Au milieu de terrain, t'as Doucouré qui n'est pas un milieu de terrain, on le rappelle, qui joue un peu libéro devant la défense. Mais on n'a personne, Sanson n'a pas été remplacé, on n'a personne pour faire le jeu. Et on le voit sur les 6 mètres, sur les dégagements, dans le jeu, sur les touches, sur les corners, sur n'importe quelle phase, il n'y a pas un gars qui vient faire le jeu en fait, dans notre équipe. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On balance devant un Motiba qui court un peu comme une poule sans tête, un peu faufolé comme il sait faire, mais ça s'arrête à ça. Et derrière, on a mal au notre racing parce que... Parce que c'est pas le Racing qu'on connaît et c'est pas celui-là qu'on attendait en plus avec un investissement comme ça. Je rappelle si là il avait même pas joué encore depuis deux matchs à 20 millions. À un moment donné, c'est bien. Les joueurs de Bordeaux, je parle même pas de ces Dussault de Saint-Etienne qu'on a acheté et qui même pas dans les groupes.
Là aussi, en sélection, c'est déjà pas mal. Tu m'as fait la transition du coup pour parler effectivement du projet, du recrutement. Enfin, il y a le match contente, il y a l'incompréhension globale aussi de ce recrutement. Yannick, trop déséquilibré tout simplement. Enfin, on avait déjà un thème qu'on aborde presque chaque semaine, mais parce que le constat est le même à chaque fois, il y a trop de jeunesse, pas assez d'expérience dans cette équipe.
Oui, on a laissé partir une colonne vertébrale, voilà, avec Djikou qui tenait, Habib Diallo, voilà, Bellegarde qui. Dans ce système un peu bizarre de Patrick Vieira, je pense que c'est effectivement ce type de joueurs qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire que comme il n'y a pas une animation d'équipe et que ça joue que sur l'inspiration d'un homme ou l'accélération d'un joueur. Effectivement, c'est pour ça qu'on voit ressortir Angelo un petit peu, parce qu'il peut d'un seul coup créer quelque chose, et Bellegarde avait aussi cette capacité. Mais effectivement, sur le recrutement, on a recruté personne au milieu de terrain. On voit que les milieux de terrain, c'est effectivement quand on met Doucouré, Manga, ils ont quand même une formation de défenseurs centraux. Donc effectivement, si c'est deux anciens défenseurs centraux qui doivent mener le jeu, être créatifs, c'est pas ce qu'on apprend en premier à un défenseur central. Donc ils peuvent tenir à peu près, mais c'est pas voilà, forcément c'est moins créatif.
Vraiment c'est de la Ligue 1 quoi.
Donc effectivement au niveau du recrutement, moi je ne comprends pas qu'avec l'argent qu'a Blouko, il n'ait pas investi dans un milieu de terrain costaud pour encadrer ces jeunes, parce que forcément vu le prix qu'ils coûtent, ces jeunes ont du talent ou un potentiel, un véritable potentiel, mais il faut qu'ils soient encadrés.
Une attente aussi forcément derrière. Fred, rapidement, et pour conclure cette première partie, la grande question, c'est est-ce qu'on l'a vendu ce projet, ce recrutement, cet effectif? Est-ce qu'on l'a vendu comme ça à Patrick Vieira? Ou est-ce qu'il le découvre? Il s'est un peu, entre guillemets, après le match, il a dit ah oui, mais on a perdu Diallo, on a perdu Bellegarde, tout ça a été programmé a priori.
Mais c'est ça qui est bizarre en fait, c'est là où on ne sait pas effectivement. Alors je rappelle juste un pas de panic bike, juste le 31 août, hein, surtout pas d'achat en dernière seconde. Voilà, on le voit, on le paye maintenant, clairement on le paye déjà. Donc ça va être quoi? Ça va être la catastrophe, comme on a fait avec Stéphane jusqu'au mois de janvier. Après, au mois de janvier, on va essayer de rattraper les morceaux et récupérer quelques joueurs. Je sais pas où on va là, mais clairement, et effectivement, on sentait dans son discours d'après-match où là il est en train de pointer que effectivement bah, son équipe en fait il a beaucoup de défenseurs, quelques attaquants et puis personne au milieu en fait, et qui constate ça comme ça. Alors c'est vraiment bizarre et on le sentait, ça y est, ça commence à glisser, et jusqu'à quand ça tiendra?
Eh bien, il faudra néanmoins faire avec cet effectif, au moins, comme dit, jusqu'à Noël, et puis ramener des résultats et des points pour continuer d'avancer. On va parler dans un instant, justement, du grand chantier de cette équipe au milieu de terrain. Mais pas que. Que faire avec ce large effectif? Et puis, on va parler des 15 jours qui arrivent pour préparer les deux chocs de gros déplacements du côté de Rennes et du côté de Paris. Ça s'annonce évidemment particulièrement costaud. Voilà pour le programme qui vous attend juste après une courte page de pub. On se retrouve dans un instant. Comment reconstruire une équipe quand on est après 8 journées de championnat avec autant d'incertitudes? Voilà pour le chantier qui vous attend, messieurs, pendant les prochaines minutes. On va commencer par un chiffre quand même qu'on vous a mis en infographie pour illustrer un petit peu les atermoiements, les tâtonnements de Patrick Vieira. Ce chiffre, le chiffre 20, c'est tout simplement le nombre de joueurs titulaires différents qui ont démarré ces 8 matchs de championnat. Sur quoi, 25 joueurs, on va dire le vrai effectif pro, on va dire 25 joueurs. Je vous pose la question que je vous ai posée il y a un instant. Qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, Yannick?
À part on est d'accord, on est tous d'accord.
Ouais, c'est ça, c'est Matt Sels.
Matt Sels au but, ok.
Et après, c'est
qui est sûr de démarrer le prochain déplacement à Paris?
Matt Sels.
au-delà de Matt Sels...
Le vrai souci, il est là. Donc.
Voilà. Si peut-être... Allez, je dirais peut-être Lucas Perrin. C'est le seul qui évolue, à mon avis, à son niveau. Mmh. Et voilà. Et Thomas Delaine. Parce
c'est
Naya
aussi, peut-être un petit peu, ouais.
Voilà, c'est Naya qui, oui, je pense.
Ça illustre, comme dit, le chantier qui est devant le coach du Racing.
Je me faisais la réflexion qu'il n'y a pas que le stade en chantier. Il y a toute l'équipe. Et effectivement, pour moi, le plus gros chantier,
il y a des plans. Hein.
Voilà. Alors, je pense que le plus gros chantier, effectivement, c'est le milieu de terrain. Parce que derrière, même s'ils ratent leur match, enfin, on en a tellement des défenseurs qu'il y a moyen de trouver quelqu'un. Au milieu de terrain, je suis beaucoup plus inquiet parce que je ne vois pas trop. Sur la fin de match contre Nantes, finalement, en faisant rentrer Sissoko et Diarra, j'ai trouvé qu'on avait retrouvé finalement des milieux de terrain qui jouent au milieu de terrain et que du coup il y avait un tout petit peu de placement un peu plus logique et voilà, c'était aussi la fin de match, les Nantais ne faisaient plus grand chose. Mais voilà, pour moi les chantiers prioritaires c'est ce milieu de terrain et puis trouver un patron sur le terrain, et ça se trouve pas comme ça quoi, c'est dans l'effectif qu'il faut
le
trouver.
Est-ce qu'il existe, Fred, dans l'effectif ce patron pour toi?
Pas aujourd'hui. Clairement pas aujourd'hui. Alors il y en a qui essaient de prendre un peu le rôle et on pense à Fred Guilbert, on pense à Lucas Perrin, mais pour moi il n'y a pas de patron aujourd'hui. Et,
technique, patron mental,
patron de vestiaire aussi. Et à un moment donné, enfin les chantiers, moi ça me connaît, c'est mon métier tous les jours. Et je peux vous dire que voilà, il faut un patron parce qu'à un moment donné il y a des décisions à prendre aussi. Et des décisions aujourd'hui, je vois pas qui les prend à part un peu Sels, mais on le voit sur toutes les phases, sur les corners, sur les coups francs. Ça tatillonne, c'est flou en fait. Et aujourd'hui, alors on peut peut-être imaginer peut-être remettre Diarra à son poste. Moi je l'avais vu il y a quelques années, quand il était encore jeune, en Gambardella, il jouait pratiquement un peu 8 devant la défense et pas comme Antonetti l'avait fait jouer l'année dernière. Donc peut-être le retrouver à cette position-là, mais après il était blessé. Et après, aujourd'hui, se priver pratiquement d'un Persic ou d'un Aulu, c'est presque difficile à dire. Hein. On en arrivait là. Hein. C'est presque des joueurs qui nous faudraient pratiquement maintenant.
Ils ont eu leur période en tout cas. Enfin, pas forcément très récemment, mais chacun ont fait des bonnes saisons sous le maillot bleu. C'est le genre de profil, de genre d'expérience qui pourrait jouer à leur poste au milieu, Yannick, qui pourrait être une solution à court terme.
Oui, même s'ils ont tous les deux déçus aussi, hein, c'est aussi pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation. Mais sur le premier match, on voit bien une passe en profondeur de Perisic. Ça reste précis quand il joue bien et qu'il est en forme. Perisic, c'est un très bon joueur. Quand il joue pas bien, c'est problématique aussi. Mais voilà, ça fait partie des joueurs qu'on devrait laisser en tout cas dans la rotation et se permettre de les avoir. On voit bien que là, au niveau du jeu de passe au milieu de terrain, il y avait pas assez. Après, effectivement, un leader sur le terrain, j'avoue que je vois pas qui peut l'être. Matzel, c'est trop loin du jeu. Niamzi, on sent que c'est pas du tout son truc, alors qu'avec le départ de Djikou, il aurait dû s'imposer. Et le seul, voilà, que je vois un petit peu, je me dis, c'est Lucas Perrin. Mais est-ce qu'il a suffisamment de poids pour s'imposer face aux autres, j'en suis pas convaincu. Et après, j'espère voilà qu'un joueur comme Angelo, c'est peut-être le plus jeune, mais puisse devenir presque un leader technique sur le terrain. On voit qu'il réclame beaucoup le ballon, il va vers l'avant, il réfléchit pas trop à voilà, il pense pas vers l'arrière, au moins il va vers l'avant. Et c'est un des rares que je vois voilà essayer de proposer quelque chose. Il a plein de défauts de jeunesse, mais on se dit que techniquement, il est nettement au-dessus des autres.
C'est alors très jeune quand même pour se reposer ou incarner effectivement sur le leadership. Quoi. Pour conclure sur cette partie, Fred, rapidement, il faudra aussi résoudre le problème du système. On peut pas changer de système. Enfin, on peut pas. Ça paraît compliqué de changer de système à chaque match quand on a autant d'incertitudes.
Mais pendant longtemps, en fait, les équipes jouaient dans le même système en attaque et en défense. Voilà. Là, maintenant, c'est la nouvelle mode. Maintenant, on change en fait entre les phases offensives et les phases défensives. Donc, il faut s'acclimater. Et même maintenant, on change en fait entre les matchs. Et on le voit qu'avec nous ça ne marche pas. Donc à un moment donné, on a essayé de passer du 5-3-2 au 4-3-3, qu'on s'arrête maintenant à un système et qu'on, même si on perd une fois dans un système, au moins que les joueurs commencent à prendre leurs repères et commencent à prendre leur marque et qu'au fil du temps ça commence à fructifier, parce que pour le moment c'est droit à la catastrophe.
Allez, on va passer à la dernière partie de ce Cop Racing sur ce mot de catastrophe qui décidément donne un peu la température et l'ambiance du côté des supporters du Racing de déplacement qui attendent les Strasbourgeois à Paris, donc le samedi 21 à Rennes, le dimanche 29, suivront la réception de Clermont. On annonce déjà le match à... Vous voyez venir le match à 6 points. Ces 15 jours de trêve seront meublés par un match amical contre Karlsruhe, ça sera vendredi, sachant qu'une partie des joueurs seront en sélection. On pourrait se dire, Yannick, que ces 15 jours vont servir à travailler, mais comme toujours, les nombreux absents retenu par leur sélection nationale, y compris Saïdou Sow, ça ne va pas faciliter effectivement le travail dans le long terme pour instaurer un système pour Patrick Vieira.
Ouais, exactement, parce que comme c'est des jeunes joueurs, mais qui sont talentueux, ils sont retenus dans leur sélection. Et donc, ça prouve qu'il y a quand même du talent, puisque au niveau des sélections, ils les gardent en sélection. Mais effectivement, ça devient un cauchemar pour organiser l'équipe. Et nous, on a vraiment besoin de ces 15 jours pour tout réorganiser. Et voilà, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire pendant ces 15 jours avec les trois quarts de l'équipe ailleurs, en déplacement. Voilà. Donc, je pense que Paris et Rennes, ça va être très très compliqué, à moins d'un électrochoc, je sais pas comment, mais on l'espère en tout cas.
Fred, qu'est-ce que tu fais de ces 15 jours, comment tu utilises ces 15 jours pour essayer de construire quelque chose pour attaquer ces deux déplacements?
Je change d'entraîneur.
D'accord.
Peut-être. Okay. Ouais, mais non, mais il faut un électrochoc, c'est clair que là, si vous avez vu Rennes PSG hier soir, il y a de quoi vraiment être inquiet, hein. Il y a vraiment de quoi être inquiet, parce que alors soit on va jouer le Catenaccio et on se fait un 10-0-0, peut-être vraiment pour essayer de gagner le 0-0, mais dès qu'on va prendre un but, ça va être la catastrophe derrière. Mais il va falloir vraiment trouver les ressources, trouver les discours. Il y a un staff étoffé aussi, il y a de l'expérience aussi sur le banc, et c'est le moment effectivement de faire marcher l'expérience. Mais là, il faut préparer ça en mode guerrier, sinon on va prendre de dérouillés et on arrivera face à Clermont dans une méno qui va se retourner. Écoute, la méno, elle se retourne face à son équipe, avec des jeunes sur le terrain. Là, ça va être très difficile. Et le match à 6 points, ça peut être très, très difficile.
Patrick Vieira, forcément, a protégé son groupe. Yannick dit que forcément, c'est sifflé, ça ne met pas en confiance. Ce sont des jeunes joueurs, ça a besoin de confiance. Forcément, gérer ces sifflets, c'est fatalement un poids supplémentaire aussi. Je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets.
Mais on le voit avec Emega, hein, qui a été très mauvais contre Lens. Et en même temps, moi, j'ai eu mal pour lui au moment de sa sortie, sous les sifflets. Il a 20 ans, il a complètement raté son match face à Lens. Bizarrement, il était malade, absent contre Nantes. Voilà, je pense qu'il va avoir peur de revenir jouer à la méno. Et voilà, et c'est très compliqué. Effectivement, je pense que ce n'est pas de la faute de ces jeunes joueurs, mais ils doivent être accompagnés, ils doivent être encadrés.
Quel est le remède pour retourner le public qui, comme dit, enfin, on sort quand même de saison ou dans des situations improbables où ça jouait pareil, vraiment mal aussi, on était au fond du seau et le public constamment encourageait cette équipe. Enfin, les sifflets étaient rarissimes à la méno.
Mais il y avait quand même quelque chose au fond en fait. Il y avait quand même. Ils se battaient quand même, même si c'était flou et ça ne marquait pas de points, il y avait quelque chose. Là, tu sens qu'ils sont tellement perdus. C'est ça qui fait peur en fait. C'est qu'à un moment donné, il y avait quand même un principe de jeu, ça ne marquait peut-être pas de points, mais à un moment donné, tu continuais, tu t'accrochais, tu savais qu'un jour ça viendrait. Là, en fait, chaque mi-temps qui passe, on glisse encore vers le néant, en fait. Il y a vraiment plus rien. Lens a été compliqué, mais finalement, quand tu vois Lens face à Arsenal, tu dis que finalement, perdre 1-0, c'était pas non plus déconnant. Et Maga, il a peut-être fait un mauvais match, mais en même temps, il a même pas eu aucun ballon à jouer. Et là, tu te dis, maintenant, tu perds contre Nantes, mais sans rien montrer du tout pendant 90 minutes. Je rappelle, le Racing a fait 19 tirs cadrés depuis le début de la saison en 8 matchs. C'est terrible. Et ça fait peur.
Allez, pour s'aérer un petit peu l'esprit, il n'y a pas que le Racing dans la vie. Il y a aussi d'autres clubs alsaciens qui étaient sur le tard, qui bossaient ce week-end. Un petit coup d'œil dans l'actu de ce week-end. Regardez.
La SIG a encore une fois montré ses limites ce week-end face au Mans avec une nouvelle défaite, 86-78. La troisième de rang, pourtant, à 20 secondes de la fin, les coéquipiers d'un Philbus, auteur de 19 points, n'étaient menés que de 2 unités avant de sombrer. Une défaite logique dans un calendrier particulièrement compliqué, puisqu'après ce déplacement au Mans, les Strasbourgeois doivent encore se rendre à Cholet, Roanne, puis Oldenburg. À 20 ans, l'Alsacienne Morgane Ozisek a, elle, surpris son monde aux Mondiaux d'Anvers, en Belgique. La native de Colmar, licenciée à Haguenau, a terminé à une très belle 14e place au concours général. Une deuxième belle surprise après sa médaille de bronze par équipe obtenue mercredi dernier. Deux excellentes nouvelles à 10 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour finir, une autre surprise, celle-ci nous est offerte par les filles de Mulhouse en volley. Elles se sont imposées 3-7-0 face aux doubles championnes de France en titre, le Canet. Une belle revanche pour ce remake de la finale de l'an passé. Et surtout, un merveilleux départ pour l'ouverture du championnat.
Voilà pour le coup d'œil dans le rétro. C'était pas brillant du coup. Heureusement, la gymnaste Morgane Ozisek était là pour rehausser un petit peu le niveau avec les défaites de l'ATH, de Célestat, de la SIG et donc du Racing. C'était pas un week-end très sympa pour le sport alsacien. Il nous reste 30 secondes pour conclure. Yannick, en une phrase, qu'est-ce qui te rend optimiste quand même pour la suite ?
C'est qu'il y a quand même un potentiel. Ces joueurs ont un potentiel, donc il faut juste réussir à le révéler, quoi.
Fred, tu reviendras quand même à la méno. Pourquoi ?
Mais parce qu'on a le Racing dans le cœur et il y aura toujours l'Union Sacrée derrière notre Racing, mais qui le prouve sur le terrain et qui nous donne envie de continuer à les supporter vraiment et de rester 90 minutes.
15 jours en tout cas pour travailler pour Patrick Vieira et ses hommes, ceux qu'il aura sous la main. On se retrouvera la semaine prochaine, puis en déplacement à Paris, bien sûr, à préparer. On aura le temps de reparler de tout ça. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.